Passionnément Vôtre. Passionnément Vôtre, l'émission 100% passion avec Chris Arnal.
Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Présence Figea 97.7. Comme chaque semaine, c'est une émission de Passionnément Vôtre. Comme chaque semaine, c'est un métier passion que nous invitons ici même. Et cette fois, nous avons donc Lucas, qui est vendeur animalier et aussi, et surtout, je dirais, passionné de pêche. Lucas, bonjour.
Bonjour.
Merci à toi d'être venu dans nos studios.
C'est un plaisir.
Donc, on va parler, donc, alors, la dernière fois, c'est vrai qu'on avait déjà eu naturopathe animalier, mais toi, vraiment vendeur animalier. Mais avant de parler de ta passion, parce que je sais que c'est un métier, mais c'est aussi une passion, j'aimerais que tu nous parles un peu des études qui t'ont amené à faire ce métier.
Alors, je suis à la base un grand passionné d'animaux, comme beaucoup d'enfants, j'ai envie de dire, à travers le monde. Sauf que j'ai voulu pousser un petit peu le vice un peu plus loin. J'ai commencé mes études sur le secteur de Figeac, à la Vinadi, le lycée agricole donc de Figeac. J'ai fait un cursus qu'on appelle TCVA, qui est technicien conseiller vendeur en animalerie. C'est un cursus de 3 ans qui fait office de bac pro et de BEP sur la première année. Et ensuite de ça, j'ai voulu continuer les études sup sans grand succès de ma part, sans envie, entre guillemets.
D'accord. Et donc en fait, le diplôme que tu as eu, c'est vraiment ce qu'il faut pour être vendeur animalier.
C'est la base. On va dire que c'est la base. Il y a un cursus qui existe après, plus axé sur le commerce, qui est un peu plus apprécié par la plupart des patrons ou pour monter une entreprise. Mais pour commencer, grosso modo, en bas de l'échelle, en tant que vendeur animalerie et avoir la base, c'est le minimum requis, on va dire.
Alors, comme tu disais tout à l'heure, avant de vraiment te questionner sur ce métier qu'on connaît peu, enfin, on connaît, mais on connaît pas les coulisses, donc tu vas nous expliquer. Et j'aimerais quand même savoir, tu dis que tu as été passionné d'animaux, donc est-ce que dans ton enfance, ton adolescence, tu as eu des animaux qui t'ont donné cette envie, quoi?
Ouais, toujours plus ou moins. Hein. J'ai grandi dans un foyer avec toujours un chat, un chien, un papa qui avait un aquarium, donc généralement, arrivé à mes 4 ans, j'avais mon petit poisson rouge dans le petit aquarium, dans la chambre, etc. De là a commencé un petit peu le vice, on va dire, avec les animaux, donc cette passion vachement prenante. Arrivé quelques années plus tard, on découvre qu'il y a autre chose que des poissons, notamment j'ai eu quelques tortues aquatiques, etc., que j'ai gardé aussi une bonne quantité d'années. Et ce sont des animaux qui me suivent encore à l'heure actuelle.
Alors, je suis pas spécialiste, mais je sais que les tortues, c'est, par contre, c'est assez difficile à, j'allais dire, à élever, oui.
À élever, à oui. À entretenir. Il faut avoir de bonnes habitudes. Après, il faut prendre en compte la différence entre les tortues. Il va y avoir des tortues terrestres, des tortues aquatiques et des tortues semi-aquatiques. Généralement, la plus facile, c'est l'aquatique, la semi-aquatique. C'est beaucoup moins contraignant, il n'y a pas d'hibernation, on garde une température stricte, c'est très facile. Tortue terrestre, c'est un peu plus compliqué, que ce soit législativement parlant ou même en entretien.
Parce que je sais que j'ai une époque où j'avais une tortue qui, malheureusement, j'ai pas su m'en occuper, quoi. C'est dommage parce que j'adore ces bestioles, mais j'ai pas su m'en occuper. C'est pour ça que tu vas pouvoir nous expliquer comment s'occuper des animaux, justement. Alors, sans rentrer dans le détail, on va quand même savoir que tu travailles dans une boutique animalerie sur Rodez.
C'est ça, sur le secteur de Rodez.
Voilà, ça fait combien de temps ?
Là, ça va faire un peu plus d'un an sur cette boîte-là. Après, j'ai eu passé, toujours sur le secteur Rodez, une entreprise concurrente pendant quasiment un an aussi.
D'accord. Et donc voilà, donc explique-nous un peu, parce que vendeur animalier, nous on a la personne, on arrive, c'est la personne qui demande, enfin, si on a besoin de renseignements, ouais, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la vente.
Il n'y a pas que la vente.
C'est une journée de vendeur animalier.
Il n'y a pas que la vente, même si, grosso modo, dans n'importe quel magasin, si on ne vend pas, le magasin ne fonctionne pas et oui, on ne travaille plus, au final on est licencié. Donc il y a une grosse base de vente vis-à-vis du client, mais il y a aussi un grand entretien, parce que ça reste, déjà on traite quand même du vivant, donc ça ne reste pas juste des objets décoratifs, il y a un entretien, on va dire une prophylaxie sanitaire, donc il faut être carré sur l'entretien et sur ce qu'il y a à faire.
Donc tu parlais d'aquarium, de poissons, mais il n'y a pas que ça dans
la boutique. Il n'y a pas que ça. Généralement, dans les animaleries, on retrouve beaucoup, beaucoup plus de types d'animaux. On va avoir ce qu'on appelle des rongeurs, des oiseaux et des poissons, voire terrariophilie, donc des reptiles et ce genre de choses. Après, tous les magasins ne travaillent pas de cette manière-là. Il y a des animaleries où il n'y a même pas d'animaux vivants. Donc de manière générale, voilà, on va dire que c'est un marché qui est quand même plutôt à sa guise, entre guillemets. Je sais que j'ai eu fait les deux. J'ai eu fait une première boutique où on va traiter vraiment de tous les animaux, où là, sur l'animalerie où je suis, où on va traiter vraiment qu'un secteur en particulier.
Donc en fait, tu dis animaux, les rongeurs, les poissons, après il n'y a pas d'autres animaux.
Alors généralement, on va retrouver vraiment des oiseaux, des rongeurs, donc ça va être lapin, etc., et des poissons. Les serpents, les lézards, etc., c'est vraiment sur les secteurs un peu plus dédiés. Par exemple, je sais que sur le secteur de Rodez, il y a 2 magasins sur 4 ou 5 qui font vraiment du reptile en petite quantité, quantité modérée. Mais globalement, ça va dépendre de la part de marché qui est accordée à cet animal-là.
Et donc, du coup, bon, on parlait d'accordium. Je sais que tu es assez spécialiste quand même en aquarium en poisson. On parlera de ton côté pêche un peu plus tard. Mais voilà, au niveau aquarium et tout, alors ça, je voulais en parler parce que j'ai connu ça aussi. J'ai eu des aquariums à la maison. C'est hyper compliqué. Enfin, pour moi, en tout cas. Entretien, même les poissons, il y a des poissons d'eau douce, il y a des poissons de... Explique-nous, nous, on peut pas, en fait, honnêtement, on peut pas, j'imagine, se dire, tiens, un matin, je vais avoir un aquarium et un poisson, et basta. C'est pas comme le cliché du poisson rouge dans un bocal, ouais, on est d'accord.
Tout à fait, tout à fait. Ben, de manière générale, c'est comme l'idée de projet d'avoir un enfant ou d'adopter un chat ou un chien. Normalement, c'est pas quelque chose qu'on est censé faire sur le pouce. C'est vraiment un projet qu'on réfléchit, qu'on fait mûrir. Et je conçois, ouais, que les aquariums aient un peu plus d'entretien parce que c'est quelque chose qui vous montrera rarement de signes de si ça va bien, est-ce qu'il est trop propre, pas assez propre. De manière générale, c'est un peu plus technique, même si de manière générale, maintenant, dans la plupart des animaleries, on vous donnera toujours les clés pour vraiment pouvoir débuter sereinement et garder quelque chose, premièrement, d'esthétique et deuxièmement, quelque chose de viable sur le moyen long terme.
Alors, quel type de poisson on peut avoir? Parce qu'on va bien, on met pas des truites, on est d'accord, dans un aquarium. Donc c'est quoi comme... par exemple, à ta boutique, est-ce qu'on peut trouver comme poisson des poissons exotiques,
On va trouver essentiellement du poisson exotique, parce que c'est ce qui est le plus demandé sur un marché. De manière générale, rares sont les gens qui ont envie de se dire « je vais acheter un énorme aquarium pour mettre un brochet ou les perches dedans ». C'est les poissons que les gens réservent vraiment plus à la pêche ou à l'introduction au milieu naturel. Dans la plupart des animaleries, on va retrouver les poissons de trois gros continents. On va avoir l'Amérique du Sud, l'Afrique et après l'Asie. On retrouve très rarement du poisson européen ou très rarement du poisson du Nord-Amérique.
C'est dû à quoi, ça?
Je ne sais pas. Je pense que c'est surtout l'esthétique vis-à-vis de la couleur et peut-être de la, on va dire, de la façon dont c'est élevé et la façon dont ça peut être prélevé même dans la nature. C'est les poissons qui sont plus courants.
Parce que là où je disais que tu étais spécialiste, c'est que tu as aussi un aquarium chez toi. Donc en fait, toi, l'aquarium et les poissons, on verra après, c'est vraiment une passion qui te prend, quoi.
Ouais, ouais. C'est, en plus de mon boulot, ouais, c'est vraiment une vraie passion que je fais perdurer même chez moi.
Tu as eu travail à la maison, quoi.
Ouais. Beaucoup de travail à la maison.
Donc si quelqu'un veut venir chez toi, donc à part les poissons et tout, donc tu dis que tu as des rongeurs, tu t'y connais en tout. En fait, tu es obligé de t'y connaître en tout.
Quand on est en animalerie, généralement, on est obligé d'avoir les bases partout.
Voilà.
Et à la rigueur, si vraiment on est passionné par un sujet en particulier, on pousse sur celui-là. Mais il faut vraiment avoir la base, vraiment, vraiment la base partout. Essentiellement, quand je parle de base, je parle vraiment de comportement basique, donc savoir reconnaître un chien qui a besoin de quelque chose, un besoin, que ce soit de l'alimentaire, que ce soit lié à un facteur de stress ou un manque de dépenses, etc. Et après, on va venir peut-être pousser sur tout ce qui est pathologique, donc maladie, etc. Mais là, j'ai tendance à dire que c'est plus traité de l'ordre du vétérinaire que du vendeur en animalerie. Même si un bon vendeur en animalerie pourra toujours essayer de vous aider sur ces points-là.
Alors justement, on est d'accord que le vendeur en animalerie peut faire n'importe quoi, c'est des animaux vivants. Ça t'est arrivé, je sais, ça rentrait les détails, de jour de dire, allez non, toi, je préfère pas te vendre tel ou tel animal parce que tu vas pas y arriver. Enfin, sans être méchant, mais est-ce que t'arrives à voir que le client va pouvoir assurer ou pas?
Oui, tout à fait, et c'est même une chance qu'on a en tant que vendeur d'animalerie, c'est qu'on a vraiment ce droit de refuser une vente parce que la personne n'est pas en capacité d'adopter un animal. Parce que comme je le disais tout à l'heure, on traite du vivant, on parle de quelque chose qui vit, qui n'est pas là pour faire joli, qui a des besoins. Et si on ne les respecte pas, c'est ce qu'on appelle de la maltraitance animale. Donc, dans le métier de vendeur d'animalerie, on a ce droit, légalement, de vous dire « Non, je ne vous vends pas un poisson rouge pour le mettre dans un bol. »
Mais en plus, j'ai trouvé ça toujours trouvé... Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça... comment on peut appeler ça, mais par exemple, tu vois, un poisson rouge dans un bocal, j'ai trouvé ça toujours terrible. Quoi. Au moins, dans l'aquarium, la bestiole a la place. Quoi.
Mais le poisson rouge dans le bocal, c'est un exemple qui est un peu compliqué parce que
c'est un cliché, je sais.
Mais c'est un cliché, mais c'est surtout qu'en fait, c'était quelque chose qui était une norme. Il y a de ça, on va dire, allez, entre 15 et 20 ans, c'était encore une norme. Parce qu'il n'y avait pas eu des études comme il y a eu à présent, etc. Maintenant, des bocaux en magasin, vous n'avez pas de chance d'en trouver. C'est interdit à la vente, maltraitance animale, catégorisée, quoi. Donc, c'est vraiment une question qui est à part. Après, c'est la plus flagrante parce que c'est la plus récurrente.
Enfin, je ne sais pas si maintenant ça se fait encore, mais quand j'étais plus jeune, il y a longtemps, dans les fêtes foraines, on pouvait être sûr de partir avec un poisson rouge.
Ouais, ouais.
Et là aussi, il n'y a pas de légalité, il n'y a pas de suivi, quoi, en fait.
Maintenant, oui, parce qu'ils n'ont plus le droit du tout. C'est pour ça que maintenant, ça va faire généralement 4 à 5 ans où on n'en retrouve plus du tout sur le marché.
C'est interdit.
Il n'y a pas de... Il n'y a vraiment que les animaleries ou les gens détenteurs d'un certificat qui ont le droit de vous vendre un poisson vivant, légalement. sauf chat et chien, où c'est une portée par an légalement, par un particulier.
Je pensais que ça se faisait encore, et j'avoue que je trouvais ça un peu idiot, parce que le poisson...
C'est très limite, très limite.
On peut appeler ça un peu de maltraitance animale.
C'est de la maltraitance animale.
Voilà. C'est comme si je mettais Armand dans un bocal, je te dis pas le...
Ah oui, là je pense que...
Ça partirait en vrille.
C'est comme laisser ses enfants dans un cagibi. C'est pas cool comme chambre.
La chambre d'Harry Potter.
Harry Potter sous les escaliers, voilà, on s'étonne qu'il soit fou, quoi.
Et ça donne Armand. Alors on va parler donc dans la deuxième partie, parce que tu vois ça passe vite, on va parler spécialement vraiment de la passion pêche, parce que pareil, la pêche toi c'est toute ta vie.
Oui.
T'en es même, alors je vais rentrer dans les détails, je sais pas si je pourrais, mais je vais le faire quand même, t'as même au niveau tatouage.
Oui.
Voilà, donc c'est vraiment Lucas, il est vraiment spécialisé pêche, on en parlera après à la pause musicale, et merci encore d'être à l'antenne sur Radio Présence Fija 97.7.
Présence à Figeac 97.7.
Et nous voilà donc de retour à l'antenne avec une spéciale métier passion pour les animaux. Et là, on va surtout parler de pêche avec Lucas, donc, qui est venu parmi nous dans nos studios pour parler de cette passion. Alors, c'est vraiment une passion très prenante. On va dire que tu es quelqu'un de 100% pêche. C'est toute ta vie. Enfin, entre parenthèses, c'est toute ta vie, la pêche.
C'est toute ma jeune vie, on va dire, pour l'instant.
Parce que voilà, donc je sais que... Alors, dis-nous parce que moi, bon, je suis pas amateur de pêche, c'est vrai que je suis pas le seul truc que j'ai pêché, c'est Armand, et quand tu vois le résultat. Donc qu'est-ce que tu, le type de pêche, le type de poisson, je sais que tu pêches la nuit aussi, enfin, ouais. donne-moi envie de pêcher.
On va dire grosso modo, on va compter deux grosses catégories. Il y a ce qu'on appelle le no-kill et la pêche dite pour la consommation. Donc il y a le passionné qui va pêcher pour s'alimenter, aller remplir le congélateur, on va dire, et il va y avoir les pêcheurs no-kill, donc presque dite de la pêche sportive, qui va être plus, on va dire, éducative, grosso modo, parce que c'est juste vraiment prendre son temps et apprécier être au bord de l'eau. Après, dans ces deux grosses catégories, on va surtout cibler différents poissons. Comme tu l'as dit, je pêchais de nuit, donc, voilà. Et encore un petit peu. C'est surtout dédié à la pêche d'un poisson, donc la pêche de la carpe essentiellement, où là, c'est un poisson qui a une facilité d'alimentation la nuit, où elle est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus cachée, préservée des prédateurs, donc elle va venir sortir un petit peu plus. C'est de manière générale une passion qui peut être prenante pour les gens qui aiment bien traîner en nature, etc., parce qu'on est à mi-chemin entre le camping par exemple et vraiment le côté vacances, ouais, parce que généralement rares sont les gens passionnés qui passent vraiment H24 leur temps de pêche tout seul. Généralement c'est vraiment une activité qu'on aime partager autour d'un petit feu si c'est autorisé, autour d'un bon repas, etc. Après, voilà, comme je disais, il y a vraiment plein de types d'espèces. Moi, j'ai commencé par exemple la pêche avec les pêches traditionnelles dites au leurre. Donc, on va chercher ce qu'on appelle les poissons carnassiers qui mangent d'autres poissons. Tout ce qui va être brochet, perche, black bass, la truite, etc. Puis, de là, après quelques années, j'ai commencé à bifurquer pour aller chercher les poissons un peu plus tranquilles avec des temps de pêche un peu plus longs. Donc, je me suis mis à pêcher la carpe, essentiellement, qui est, à mon sens, plus récompensé en termes de résultats que la pêche au leurre, où en fait c'est juste beaucoup de randonnée et de je lance pour lancer.
Alors j'allais dire que la pêche, ouais, c'est un sport loisir, on va dire,
ouais.
Mais moi le cliché que j'ai quand je vois des pêcheurs, c'est ben, tu prends la canne et tu attends, mais c'est pas que ça, mais c'est le cliché que j'ai quand t'arrives au bord de l'eau, le mec il pêche, il attend, et j'ai l'impression que tu dois te faire chier, enfin te faire chier. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Ouais, tout à fait.
C'est après, le cliché que j'ai, moi.
Après, il va y avoir plusieurs écoles. Un grand passionné qui adore vraiment la pêche, il va avoir des phases de préparation, il va aller se renseigner sur un plan d'eau, il va traîner au bord de l'eau, regarder comment est-ce que c'est fichu, s'il y a des arbres dans l'eau, s'il y a beaucoup de courant, pas du tout, si c'est variable. Il va être méthodique, entre guillemets, et il va être plus proche, scientifique, entre guillemets. Il va avoir vraiment des notions scientifiques à regarder le débit, la couleur de l'eau, voir s'il voit déjà des poissons, préparer sa pêche, donc à mort s'il a besoin, vraiment vérifier tout si les conditions sont bonnes. Et après il y a, comme on le voit, les anciens qui sont là pour se détendre et juste tremper la ligne à l'eau, quoi.
Ouais, parce que moi je pense que je m'endormirai facilement. Et donc tu parles de la nuit, est-ce que c'est différent la pêche de jour et la pêche de nuit justement, et qu'est-ce que tu préfères, toi?
La pêche de jour, c'est, j'aimais bien quand j'étais un peu plus jeune, adolescent, j'avais pas le temps d'aller pêcher la nuit, j'avais pas la compréhension du milieu la nuit. À l'heure actuelle, j'aurais tendance à dire que je préfère largement faire une nuit à la carpe avec mes amis autour d'une petite bière et au bord de l'eau, plutôt que de passer une après-midi au cagnard à marcher, à attendre le poisson, quoi.
Alors, oui, j'avoue que... Je m'intéresse surtout à la bière, à la pêche, après je verrai plus tard, mais la bière ça m'intéresse. Non mais voilà, c'est ça qui est assez passionnant, c'est que on est loin du cliché. Tu fais pas ça, là tu mets pas parce que tu parles de débit, de couleur de l'eau. C'est dingue en fait la préparation que tu as. Toi ça arrive pas, je plante ma canne et au revoir.
Mais on peut, mais par exemple quand on aime avoir du résultat parce qu'on est plutôt pointueux sur ce qu'on veut faire et la façon dont on veut appréhender le milieu. J'ai tendance à dire que c'est comme un bon artisan, s'il vient juste en se disant « bon, mais je vais réparer le robinet », c'est un peu stupide. L'artisan, il va toujours préparer son matériel, se renseigner sur la fuite, la réparation à faire et adapter en conséquence. Quand on a tendance à vouloir un résultat efficace et vraiment présent, on va chercher toujours cette méthodologie à se renseigner sur le milieu, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, demander aux gens si on a de l'entourage qui pêche et qui est déjà allé, etc. C'est une notion entre guillemets de précision, si on veut être précis ou pointilleux ou pas du tout, quoi.
Prends-en de la graine, Chris, hein.
On m'occuperai de toi après. Et du coup, dans quel cours d'eau tu fais dans les ruisseaux, est-ce que ça a son importance dans la pêche? Je sais pas, par exemple, tu veux tel ou tel poisson, tu vas dans tel cours d'eau?
C'est ça, parce que grosso modo, on sait que par exemple, une carpe, qui est un poisson qui est relativement costaud, ouais, c'est un poisson qui peut faire entre 12, voire même 40 à 50 kilos selon le milieu. Mais on sait qu'un poisson de 50 kg, on va pas le trouver dans le ruisseau qui fait 50 cm de large et 20 cm de flotte, quoi. Donc généralement, on va adapter un petit peu le poisson qu'on cible au milieu. Par exemple, une truite, on va forcément les retrouver dans des rivières ou des fleuves. Je parle bien des truites natives, donc truite fario. Ou par exemple, un brochet, où on va avoir tendance à retrouver sur des rivières beaucoup plus grosses, avec des débits beaucoup moins impressionnants.
Et oui, des débits... On est bien d'accord, donc en fait, tu peux pas pêcher n'importe quel poisson, n'importe quel endroit.
C'est ça.
Voilà. C'est quoi le plus gros? En fait, tu dis des carpes de 50 kilos?
Ouais.
C'est ça le plus gros? T'en as déjà pêché des...
Non, pas aussi gros.
50 kilos, c'est non.
Mon rêve.
Alors moi, je vois justement des fois sur des émissions de poissons,
de
quoi.
Pêche,
ouais. De pêche, pardon. Dans le célèbre chasse et pêche, je sais pas si quelqu'un s'en rappelle, ouais, pour les vieux. C'est quoi les bestioles? C'est des silures, c'est
ouais,
ça?
Des silures,
c'est,
ouais.
Mais des trucs qui peuvent faire deux...
Ouais, plus de 2 mètres, ouais. Plus de
2
mètres,
une centaine
de...
Ça, j'avoue, mais franchement, c'est impressionnant.
Aussi gros, j'en ai vu une fois dans l'eau, mais attrapé, rarement. J'ai fait que mais des petits spécimens.
Ça doit être impressionnant. Enfin, tu peux pas le pêcher, j'imagine, pas une simple ligne, tu dois avoir des...
C'est là, par contre, c'est vraiment de la préparation. On a un équipement qui est beaucoup plus adapté. On n'y va pas avec la simple canne à pêche comme on retrouverait chez papy et mamie et qui pourrit dans le garage.
À mon avis, le fil, il casse.
Mon avis, le fil de papy, il laisse des traces.
Je te jure, quand j'ai vu les émissions, ça m'a toujours... Les mecs, ils se mettent des fois à deux, mais même à deux, ils galèrent.
Ils galèrent, ouais.
Ils galèrent. Et après, pareil, toujours dans ces émissions où je suis tombé, t'as la pêche en bateau. T'as déjà fait de la pêche en bateau?
Non. Non, c'est pas quelque chose que j'ai expérimenté pour l'instant, et je suis pas spécialement sûr que ça soit la pêche qui me plaît le plus, en tout cas qui me tente actuellement, quoi.
Ah, t'aimerais pas te retrouver... C'est pas les mêmes sensations?
C'est pas les mêmes sensations. Après, surtout les pêches en bateau, généralement, on est sur ce qu'on appelle les pêches en pleine mer. Là, on est sur un autre gabarit et vraiment un autre type de pêche et d'objectif. Généralement, on est sur des poissons qui sont beaucoup plus gros ou avec des gens qui sont vraiment spécialistes, qu'on paye pour ça. Et moi, ce que j'aime bien justement dans la pêche, c'est ce côté vachement liberté où j'ai envie d'aller chercher tel poisson, je vais à tel endroit et j'y passe le temps que j'ai envie d'y passer. Je vais pas me dire, je vais payer quelqu'un pour prendre sur un bateau, pour aller en plein milieu de l'Atlantique pour aller pêcher, n'est-ce pas, donc, quoi.
Ouais, c'est pas ce qui te...
C'est pas ce qui m'intéresse.
Ouais.
Après, avoir un bateau sur un grand lac comme on a, par exemple, en Aveyron, sur Parolou, etc., c'est beaucoup plus accessible.
Alors, tu vois, on parle de Parolou, hein, peut-être que tu vas pas vouloir dévoiler tes secrets, mais dans l'Aveyron, il y a des coins spécial pêche où vraiment on peut trouver ce qu'on veut, ou t'es pas obligé de divulguer si tu veux pas.
Si, y a là-dessus, moi, j'ai aucun problème.
On dit toujours que les pêcheurs ont leur coin.
Non, on est moins pire que les gens des champignons. On est moins pire que les gens des champignons. Nous, justement, les anciens n'aiment pas trop partager, mais j'ai tendance à dire que c'est une passion qui se perd. Donc si on peut aider un petit peu les jeunes qui veulent se lancer, moi qui suis sur le secteur Aveyron, j'ai tendance à dire, par exemple, si on veut pêcher tout ce qui est brochet, gros spécimen, plutôt aisément, on va avoir Parolou, qui est un très bon plan d'eau.
C'est chouette là-bas, c'est joli.
Si on veut aller pêcher, par exemple, la carpe, pareil, un plan d'eau, mi-plan d'eau, mi-rivière, un barrage, on va avoir Cabanac, qui est... très bon plan d'eau qui est lisière entre la Lozère et la Vérôme. Et plus pour le côté Cantal, pareil pour la carpe, le brochet et le cendre, on va avoir Saint-Étienne de Cantalès, donc Vermors, etc.
C'est magnifique.
Qui est un très beau plan d'eau qui regorge toujours de surprises, que ce soit des belles carpes ou des grosses silures comme des très très jolis cendres, des grosses perches.
T'as un souvenir d'un poisson particulier que t'as pêché? Je sais pas, un poisson que t'avais pas habitué à pêcher ou pas spécialement? C'est quelque chose de dur, c'est pour ça que
beaucoup,
je la pose.
Beaucoup, beaucoup de souvenirs vis-à-vis de moments comme ça qui peuvent arriver. J'ai souvenir de la première fois que je me suis mis à pêcher la carpe. J'y vais avec un ami à moi qui connaissait déjà un peu les techniques, etc., qui m'amène sur un plan d'eau où il me parle des espèces qu'on va retrouver. Et il y avait un poisson qui me tentait à cette époque-là, c'est ce qu'on appelle une carpe amour. C'est un poisson qui vient d'Asie, qui peut devenir très long et qui a la réputation d'être une vraie torpille dans l'eau. Il est de forme très élancée, il est très peu bloqué par l'eau, il nage très vite. Et vient le moment où on commence à installer les lignes, etc. On fait notre petite pêche, on fait quelques poissons, et vient le moment où la ligne part, etc. Et arrive devant moi ce fameux poisson, cet amour blanc, plutôt long, hein, un bon 1m10 pour 15 kilos. Et c'est un très très bon souvenir.
C'est la taille armoire, 1m10, tu vois.
Oui, ah si, ouais, peut-être.
Oui, pardon. et donc t'as réussi à le sortir, du coup?
Ouais.
J'avoue que ça va être assez intéressant. Avant de conclure, parce que malheureusement ça passe vite, je reste dans les clichés, mais c'est pour savoir. Tu vas aussi toi dans l'eau avec les gens.
Avec les waders.
Voilà.
Ouais.
Et c'est mieux que. J'y connais rien. Donc c'est mieux que d'être au bord de l'eau, c'est mieux d'être dedans pour les poissons ou...
Le poisson, il aura tendance peut-être, selon les endroits, à vous localiser peut-être un peu mieux. Mais par contre, vous, en tant que pêcheur, on aura la chance de pouvoir accéder à des. Ce qu'on appelle des postes, donc des lieux de pêche qui sont peut-être un peu moins accessibles du bord, qui seraient peut-être plus commodes en wader. Ouais.
D'accord. Eh bien, écoute, on va conclure la première partie là-dessus. J'espère que tu auras donné envie à des auditeurs de pêcher. Je ne sais pas si Armand, ça donne envie ou pas.
Ah, mais je serais bien, bien heureux d'aller en pleine mer avec toi, Chris, pour pêcher le cachalot. Alors là, c'est un truc
si
qui me motive.
Si tu pouvais déclarer tes déclarations tordues plus tard, ce serait bien. Donc, on va conclure sur les belles paroles d'Armand. Tu vois, comme quoi j'ai bien fait de laisser la parole. Et on se retrouve donc, mon cher Lucas, dans la deuxième partie, parce que l'émission a deux parties, où tu vas continuer à nous parler de ta passion et surtout, le moment que tu attends, le tu préfères. On se retrouve dans la deuxième partie. Merci, toujours sur Radio Présence, passionnément vôtre.
C'était votre émission Passionnément Vôtre, l'émission 100% passion avec Chris Arnal.